Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine, je suis de retour à Lourdes. J'ai fait le choix de revenir à Lourdes parce que, dans le cadre de cette chronique, j'ai souhaité mettre un peu en lumière les acteurs qui portent haut le label Église Verte. Et un des acteurs les plus importants sur le diocèse, autour du label Église Verte, c'est la cité Saint-Pierre. Et puis peut-être que, chers auditeurs, vous ne connaissez pas tous la cité Saint-Pierre. Et donc, c'est aussi l'occasion de vous faire découvrir cette belle cité, cette magnifique cité. Et donc, je suis à la cité Saint-Pierre, à Lourdes. Et je suis avec le directeur de la cité Saint-Pierre qui m'a fait l'honneur de bien vouloir me recevoir, qui est Guillaume Honnel. Et donc, ça va être effectivement un aller-retour entre Benoît Guillard et Guillaume Honnel. Bonjour, Guillaume.
Bonjour Benoît, bonjour à tous.
Alors Guillaume, peut-être simplement vous présenter et puis nous présenter la cité Saint-Pierre pour les auditeurs.
Je suis donc Guillaume Honneil, je suis directeur depuis 2023, je suis arrivé en mars 2023. Je suis de formation ingénieur, j'ai travaillé dans l'industrie et puis après ça, je me suis marié, on est parti avec ma femme sur des projets qui nous parlaient plus. On voulait donner du sens à notre vie de couple et notre vie de famille. Et donc nous voilà ici arrivés en mars 2023 à Lourdes pour cette cité Saint-Pierre.
Alors, présenter cette belle cité, cette immense cité, parce que c'est le cas de le dire, sans jeu de mots, c'est une immense cité. Plusieurs dizaines d'hectares, beaucoup de bâtis construits, beaucoup de places. Voilà, juste un petit regard rapide sur la cité.
Ah, quelques chiffres. Du coup, la cité Saint-Pierre, c'est une maison du Secours catholique qui a vocation à accueillir les plus démunis, les plus fragiles à Lourdes. C'est donc une maison avec 400 lits, plus de 400 lits, avec 38 hectares de terrain dans un site naturel remarquable. On accueille à peu près 12 000 personnes, ça représente 35 000 nuitées par an. On sert 130 000 repas, on a un restaurant de 500 places, 500 couverts. Voilà, et donc on accueille aussi bien des pèlerins que des sessions du Secours catholique. Donc c'est pour le Secours catholique aussi un lieu source dans son histoire, puisque c'est ici qu'à Lourdes qu'a été créé le Secours catholique en 1946 au pèlerinage du retour, organisé par Jean Rodin, son fondateur, le père Jean Rodin. Et du coup, c'est un lieu où, pour le Secours catholique aussi, on découvre qu'est-ce que la charité, comment est-ce que, voilà, la pédagogie de la charité, on retrouve le sens du service et puis de l'engagement. Voilà, c'est un peu ce qu'on y retrouve aussi ici et qu'on essaie d'y vivre.
Alors, puisqu'on parle d'engagement, bien évidemment, je parlais au début de l'émission de la belle Église verte, donc vous êtes un petit peu le fleuron du diocèse dans cet engagement. Donc à la fois, peut-être rappeler à nos auditeurs ce qu'est ce label Église verte et puis en même temps, nous expliquer, Guilhem, ce que vous avez fait vous ici au titre de la cité Saint-Pierre, comment vous avancez dans le parcours du label Église verte.
Alors, le label des Églises Vertes a été créé à la suite de l'encyclique Laudato Si, qui a été écrite par le pape François, et qui a pour vocation de permettre à des instances, des organisations d'être reconnues dans ce qu'ils font en termes de compatibilité ou de projet par rapport à Laudato Si. En arrivant ici, en fait, pour ceux qui connaissent la cité, donc c'est ce grand havre de paix. Donc le premier élément, c'est la nature qui vient. Hein, c'est la première chose qui saute aux yeux des pèlerins qui viennent ici. On est dans un site remarquable, 38 hectares, un lac. C'est un magnifique endroit et des animaux, notamment des ânes. C'est aussi le lieu où on accueille les personnes en précarité, hein, comme le souhaitait Bernadette, puisque c'est la vocation de cette maison d'accueillir des personnes démunies, comme le souhaitait Bernadette, et qui a été ouvert en 1955 à l'invitation de Mgr Théas par Mgr Jean Rodin. Donc on accueille la place, c'est vraiment le lieu de la place et la parole des pauvres. Et puis la cité Saint-Pierre marche grâce à des bénévoles qui s'engagent. On a à peu près 1000 bénévoles qui viennent chaque année nous aider à accueillir les personnes. Et donc, dans cette communauté de bénévoles se vivent des grands moments de fraternité. C'est le projet du Secours catholique de vivre la révolution fraternelle. Et donc, ces trois ingrédients qui sont les piliers du fonctionnement de la cité Saint-Pierre viennent naturellement de se dire comment est-ce qu'on peut mieux les comprendre, mieux les appréhender et puis mieux les réaliser. C'était la première intuition que j'ai eue en arrivant. Et donc, de rentrer dans cette dynamique de la Laudato Si, qui est un chemin et qui permet du coup de s'arrêter, de s'évaluer dans ce qu'on fait, dans nos pratiques et puis en équipe, de rechoisir qu'est-ce qu'on veut construire et qu'est-ce qu'on veut faire.
Donc effectivement, là, ça consiste essentiellement à faire d'abord un diagnostic et donc aborder un certain nombre de thématiques autour de l'idée de notre pape, hein, autour de Laudato Si, autour de l'écologie, et l'écologie dans tous ces termes. Hein. Et donc ce diagnostic, vous l'avez fait avec des bénévoles, avec des salariés, avec des pèlerins.
Alors là, on l'a essentiellement fait, c'est du fonctionnement vraiment dans nos pratiques, donc c'est essentiellement avec des salariés qui connaissent bien leur métier, qui sont des professionnels dans leur domaine, Et puis, c'est en travaillant avec eux, on a évalué un peu tout ce qu'on fait, nos pratiques, qu'on a pu se rendre compte de ce qu'on faisait. Et voilà.
Et donc, concrètement, par exemple, on évalue la trace carbone que l'on laisse derrière soi quand on vérifie, ou la trace carbone du repas, pour donner quelques exemples concrets.
Concrètement, on va évaluer du coup comment est-ce qu'on s'approvisionne. Est-ce qu'on respecte les cycles courts? Est-ce que dans nos menus, on va avoir du saisonnier? Est-ce qu'on va y mettre aussi quelles touches on y met, hein? C'est vraiment le DTC, c'est redécouvrir son lien les uns aux autres, à la nature, à soi-même, à Dieu, aux autres. Donc comment est-ce qu'on va du coup avoir des menus qui sont respectueux de la saisonnalité? On va regarder aussi dans nos pratiques la gestion de notre foncier et puis de l'immobilier. Est-ce qu'on a des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement? Est-ce qu'on fait avec l'environnement aussi? Et donc concrètement, les produits d'entretien, est-ce que ça correspond? Les surfaces qui sont bitumées, tous ces genres de choses qu'on va regarder un peu dans ce qu'on fait. On va regarder aussi dans quelle est la place qu'on laisse aux personnes dans la gestion de notre établissement. Est-ce que chacun peut aussi y participer? Est-ce qu'on est dans une intelligence collective? Est-ce qu'on laisse la place aussi aux plus pauvres? Comment est-ce qu'on met aussi en valeur la parole des plus pauvres?
Et puisque vous recevez aussi des personnes en situation de fragilité, puisque c'est l'essence même de cet accueil, vous échangez sur ces pratiques avec eux, ils participent concrètement à ces projets?
Écoutez, pas plus tard que hier, il y a un bénévole qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais j'ai une très bonne idée, comment est-ce qu'on peut économiser, minimiser la consommation d'eau à la cité ?» Alors j'étais assez intéressé. Et donc il m'a suggéré, on a des lavabos dans certaines parties de nos bâtiments, dans certaines chambres de nos bâtiments, qui sont sans bonde, sans fermeture. Donc il m'a dit, juste acheter une petite plaque de vous savez, pour boucher les éviers, permettre de remplir nos éviers. Voilà, chacun participe, on essaie d'être à l'écoute de ce genre d'initiative, parce que c'est eux qui pratiquent la maison, et que c'est en faisant à plusieurs, chacun avec sa vision, qu'on arrive à avoir des bonnes pratiques.
Alors justement, c'est aussi l'intérêt d'avoir un label, c'est qu'à partir de ce diagnostic c'est l'objet, c'est de dialoguer. Vous dialoguez donc autour de vous, autour de ces éléments, et comment?
Je crois que le premier intérêt d'un label, c'est de se rendre compte de ce qu'on fait. Que l'équipe réalise qu'en fait, on travaille bien, on essaie de faire le mieux qu'on peut, et en fait, on le fait dans un cadre respectueux, vertueux, en tous les cas, par rapport à l'écologie. Je crois que c'est pour moi le premier intérêt d'un label. Et puis après ça, c'est cette démarche. Donc comment est-ce que chaque chef de service, dans ses pratiques professionnelles, dans l'accueil des bénévoles et avec les bénévoles, va être soucieux de ça. Voilà, donc ça impacte aussi notre... On est en train de penser à renouveler notre parc automobile. Donc on l'a fait progressivement avec des véhicules qui sont propres. On va penser aussi à ceux qui ont du mal à se déplacer aussi. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on fait ça avec les problèmes de mobilité des personnes accueillies ici. Et ça, chaque chef de service est appelé à réfléchir. Moi, j'insiste beaucoup pour qu'ils aient à la fois des perspectives qu'ils veulent mettre en place et en même temps qu'ils sachent faire le bilan de ce qu'ils font. Jean Rodin aimait bien dire la différence entre faire et agir. Faire, c'est extérieur à soi, alors qu'agir, on va le vivre et puis surtout l'analyser, le relire, de façon à s'améliorer.
Alors justement, vous, en tant que directeur, Guilhem, donc c'est aussi un outil pour animer les équipes, on le sent bien, c'est un outil aussi pour améliorer l'accueil, c'est un outil pour réfléchir ensemble sur un monde meilleur demain.
Oui, je crois que c'est ça, c'est une façon de chacun participe à sa façon, à la petite goutte d'eau. Je crois que c'est aussi ce qui fait aussi notre unité dans cette maison, c'est de comment est-ce qu'on travaille ensemble. On a des métiers, on a une quinzaine de métiers différents dans la maison, mais comment est-ce qu'on est animé par le même souci de le vivre dans ce respect de cette encyclique. Il y a deux encycliques sur lesquelles est fondée le Secours catholique et la Cité, qui sont Laudato Si et Fratello Tutti. Et donc, on a le souhait de le vivre en équipe, chacun à son niveau, en écoutant ceux avec qui on travaille, qui nous aident et qui nous accompagnent.
Alors, peut-être une petite question sur l'avenir, Guilhem, en tant que directeur, votre vision à vous sur l'avenir et les enjeux pour cette cité, pour le futur à Lourdes.
Moi, je crois que la première chose, il faut être humble par rapport à ce qu'on fait. On a beaucoup à apprendre, à continuer à se développer. Les petits pas sont les plus importants. Voilà, donc je pense que du coup, il faut continuer à avancer. Comme on dit, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter, c'est de continuer à avancer. Je crois que la cité a vu des belles choses et je pense qu'elle est appelée à rayonner, en tous les cas à communiquer autour, à proposer à ceux qui ont besoin de venir y vivre quelque chose, parce qu'il s'y passe vraiment des choses assez étonnantes dans cette cité, continuer du coup à en rayonner et à inviter les gens à venir le vivre. Ça, je pense que c'est l'appel de la cité. En fait, cette année, figure-toi Benoît, en fait, les 70 ans de la cité Saint-Pierre, c'est pas un petit chiffre, c'est une belle dame, une grande dame qui a traversé les âges et qui continue à œuvrer pour toutes ces personnes. Donc on va le fêter cette année, on va prendre le temps de le fêter. Et ça, c'est une grande joie d'en parler ce matin en réunion d'équipe. Voilà, c'est un bel événement pour nous et on va essayer de le faire bien. En tout cas, c'est ce qui nous attend dans les prochains mois.
En tout cas, moi j'invite nos auditeurs à, si vous n'êtes jamais monté jusqu'à la cité Saint-Pierre, à Lourdes, au-dessus des grottes, là, prendre cette petite roue étroite qui nous amène vers un petit paradis. N'hésitez pas, je crois que vous serez accueillis, même s'il y a un gardien, une barrière baissée. Vous dites simplement, bah, vous venez juste jeter un petit coup d'œil, je pense qu'on va vous ouvrir. C'est un endroit magnifique et très accueillant, hein. Qu'est-ce qui fait que un ingénieur qui a travaillé dans le monde de l'industrie, avec sa famille, a décidé du jour au lendemain à tout lâcher pour se mettre au service des autres? Et qu'est-ce qui fait qu'après quelques années, on a toujours le sourire, on a envie de continuer?
Je crois que c'est vraiment la richesse de la rencontre de ces personnes qui sont à la fois plus fragiles, mais qui sont à la fois les plus riches et qui m'ont personnellement vraiment touché. Et je crois que c'est là, c'est ce contact avec ces personnes qui m'enrichit chaque jour. Je crois que c'est là que je tire ma joie d'être ici. Et puis c'est vraiment une belle maison. Il y a une équipe qui est très engagée, qui est une belle équipe aussi qui veut porter ce projet. Et ça, c'est très motivant quand on est directeur d'une équipe, avec une équipe comme ça, travailler dans des conditions comme celle-ci. Voilà, et puis je suis convaincu de ce lieu où se vit la fraternité qui est, encore une fois, on a partagé en début de semaine là. C'est un lieu, je crois, unique où se vit des rencontres et de la gratuité dans les rencontres.
Oui, moi je le confirme, hein. Je crois que c'est un lieu extraordinaire, un de plus sur Lourdes. Et donc on a la chance, nous, habitants du coin, de pouvoir bah, venir et s'émerveiller dans ces lieux-là et puis aussi rencontrer le monde entier. Hein, donc merci infiniment pour nous avoir reçus. Bravo pour cette magnifique réalisation. Bravo pour votre investissement et l'investissement de toute l'équipe de la Cité Saint-Pierre. Et puis à très bientôt. Au revoir, Guillaume.
Merci Benoît, au revoir à tous et à bientôt.